Au sommaire de cette édition, des attentats djihadistes déjoués en France, 5 djihadistes écroués. Et aussi, un djihadiste arrêté en Turquie pourrait être jugé en Australie. Et le sommet, le 16e sommet de la francophonie, s'ouvre ce week-end à Tananarive, la capitale malgache. Le procureur de la République de Paris, François Molins, s'est exprimé hier après l'interpellation le week-end dernier de 7 hommes soupçonnés d'avoir voulu mener une attaque terroriste en région parisienne. Il s'agit de 4 Français et d'un Marocain, ce sont les 5 qui restent écroués car 2 autres ont été relâchés. Écoutons d'ailleurs donc le procureur de la République de Paris, François Molins, qui explique ces derniers développements.
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la Direction générale de la sécurité intérieure a, sous la direction de la section antiterroriste de mon parquet, procédé à des interpellations simultanées à Marseille et à Strasbourg d'individus suspectés de passer à l'acte de façon imminente sur le sol français.
Et on reste toujours en France avec les primaires de la droite. Eh bien, les 2 finalistes ont tenu hier leur dernier meeting avant le second tour demain dimanche. Lors de son meeting près de Nancy, Alain Juppé a expliqué les grandes lignes de sa politique et ce qui le différencie de son dernier adversaire.
On voit bien qu'aujourd'hui se dessinent 2 visions différentes de la réforme. L'une qui est qualifiée parfois, et surtout qu'on n'y voit pas une attaque personnelle, d'hyper-libéral, qui risque, par sa brutalité, de disloquer le corps social. Et puis, ma méthode, que je qualifierais de libéralisme humaniste. Parce que, d'un côté, je crois à la liberté, bien sûr, notamment la liberté économique. On n'a rien inventé de mieux que l'entreprise libre, l'entreprise privée et l'économie de marché pour créer de la richesse au profit de tous. Et je mettrai donc en œuvre des réformes courageuses pour libérer nos entreprises du carcan qui les étouffe aujourd'hui, que ce soit les impôts ou la réglementation. Mais je veux agir en persuadant les Français que les réformes que nous mettrons en œuvre ne seront pas une pénitence, mais une espérance pour chacune et chacun.
Et l'adversaire d'Alain Juppé, donc le dernier adversaire, François Fillon, a tenu un meeting près de Paris. Et François Fillon, largement gagnant du premier tour, a déjà en tête l'après-primaire. On l'écoute.
C'est infaisable, marmonnent les comptables en tapotant sur leur calculatrice. C'est inadmissible, grommellent les rentiers du système. C'est, vous dit-on, trop risqué, trop ambitieux, trop brutal. Ce qui est brutal, c'est le chômage de masse qui casse des millions de Français. Ce qui est brutal, c'est la délinquance qui brise des quartiers entiers. Si on n'accélère pas maintenant, je me demande quand est-ce qu'on va démarrer. Juste avant la présidentielle, ça sera trop tard pour convaincre. Après les présidentielles, ce serait un déni de démocratie équivalent à celui de François Hollande, élu en vendant des roses avant que la réalité ne le rattrape.
Et le 16e sommet de la francophonie se déroule ce week-end, donc ce samedi et dimanche, à Antananarive, la capitale malgache. Les différents participants au sommet de la francophonie ont toujours considéré cet événement comme un rendez-vous incontournable. Bien, au sommaire des discussions de ce week-end figurent l'immigration, le terrorisme, la culture et aussi l'économie. Et écoutons aussi, donc, à ce sujet, Pierre Pinto qui explique le processus économique démocratique. Le processus de démocratisation figure aussi à l'agenda des participants au 16e sommet de la francophonie. Pierre Pinto nous apporte cette explication au micro de RFI.
Comme à chaque sommet, la question de l'adhésion de certains pays fera partie des dossiers sur lesquels les chefs d'État auront à statuer. Cette année, la province canadienne de l'Ontario, l'Argentine et la Corée du Sud demandent le statut d'observateur, la Nouvelle-Calédonie celui de membre associé. Mais une demande d'adhésion suscite l'embarras dans les couloirs du sommet, celle de l'Arabie Saoudite. Alors que parmi les projets de résolution soumis cette année figure la création d'une entité pour la promotion de l'égalité homme-femme, la candidature de Riyad fait grincer des dents jusqu'au secrétariat général de l'OIF. En juin, le Conseil permanent de la francophonie a diplomatiquement estimé que le dossier de l'Arabie saoudite était incomplet. Même réticence de la conférence ministérielle mercredi dernier. Le dernier mot reviendra donc au chef d'État. Les crises et situations de crise devraient figurer dans la déclaration finale et dans certains discours. Crises politiques qui n'ont pas manqué ces derniers mois. Certains chefs d'État auraient toujours en travers de la gorge le discours de François Hollande à Dakar en 2014, fustigeant les manipulations constitutionnelles pour rester au pouvoir. D'aucuns y verraient même l'explication de certaines absences remarquées. Plus consensuelles, les crises sécuritaires, alors que les pays de l'espace francophone confrontés au terrorisme islamiste sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, un projet de résolution sur la prévention de la radicalisation sera étudié.
Et on va sur le continent africain à présent, où un opposant rwandais qui vivait en exil en France est coincé depuis quelques jours à l'aéroport de Nairobi au Kenya après avoir été empêché d'embarquer pour un vol qui devait le ramener à Kigali avec deux de ses collègues et un enfant en bas âge. Cet opposant entendait retourner dans son pays pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine au nom d'un petit parti politique d'opposition nommé Ichema, dont il est le secrétaire général. Alors que Thomas Naimana, c'est le nom de cet opposant, et ses compagnons s'apprêtaient à embarquer à bord de leur dernier vol pour le Rwanda, tous se sont vus interdire l'accès à l'appareil sur instruction de la douane rwandaise. Et un groupe d'experts antiterroristes australiens estime que l'Australie a de fortes chances de pouvoir juger un militant du groupe État islamique actuellement détenu en Turquie. Neil Prakash, qui habitait à Melbourne, est considéré comme étant une des recrues des plus grands calibres du groupe État islamique. Et aujourd'hui, la Turquie est en train de négocier avec plusieurs pays qui voudraient mettre leurs mains sur ce haut responsable de l'État islamique. S'adressant à la ABC, Jacinta Carroll de l'Australian Strategic Policy Institute a rappelé que Prakash est un prisonnier de grande valeur.
We now have someone who knows a lot about how Islamic State has worked, and very importantly for Australia's security and for the protection of our country, he knows who's been plotting to do what in this country, and that's really what our counter-terrorism authorities will be focused on finding out from him.
Et l'aéroport de Melbourne est frappé par une carence de carburant, ce qui force certains vols internationaux à faire des escales de ravitaillement dans d'autres villes australiennes. Ce manque de carburant génère un chaos dans le secteur du voyage avec de nombreux plans de voyage et beaucoup de retards et reports de vols. Qantas et Etihad ont déjà annoncé que certains de leurs vols feraient escale à Perth et à Sydney pour refaire le plein. Selon l'aéroport de Melbourne, cette carence de carburant est due à un problème de livraison à un plus haut niveau. Ils appellent cela en anglais « upstream supply issues ». Et le président turc Recep Tayyip Erdogan prévient que suite à une provocation de l'Union européenne, la Turquie pourrait rouvrir la porte aux migrants voulant se rendre en Europe. Cette remarque est tombée au lendemain d'une décision des parlementaires européens de geler temporairement le projet d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Écoutons le message de Recep Tayyip Erdogan au Parlement européen.
50 000 mutejis dayandığı zaman feryat ettiniz.
When 50,000 migrants massed across the sea to Greece, you caused an uproar. You began asking, what would you do if Turkey opens its gates? Look at me. If you go any further, these border gates will be opened.
Et deux personnes ont été tuées et deux autres ont été grièvement blessées suite à un incendie qui a frappé un camp de migrants sur l'île, un camp situé sur l'île de Lesbos en Grèce. Selon la police, une femme âgée de 66 ans et un enfant de 6 ans ont trouvé la mort lorsqu'une tente s'est enflammée dans le camp de Moria. La police et les pompiers enquêtent sur cet incident et il faut signaler que des affrontements auraient aussi éclaté entre des migrants et des forces de l'ordre suite à cet incendie. Écoutons d'ailleurs ce manifestant qui exprime sa frustration.
They never care about all the refugees. They think that we are not human beings. We are something like animals, but we are not animals. We are human beings. We say it's Europe. Why in Europe is there is no human right? You people say United Nations. United Nations has human rights, but we don't see any human rights here. We don't see any freedom. We don't see any democracy here.
Et la Belgique demande à l'organe de classification du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies de classer la culture brassicole et l'amour des Belges pour la bière comme patrimoine culturel mondial. Dans le dossier d'application, il est stipulé que la brasserie permet l'expression d'une identité nationale belge unifiée dans un pays qui a 3 langues officielles. Ce dossier, qui a été soumis à l'UNESCO par la communauté germanophone de Belgique, souligne que la brasserie des bières belges améliore le bien-être du peuple belge, offre un stimulus économique et est un facteur de promotion des produits du terroir et solidifie aussi des liens sociaux. Selon Jean-Louis Van de Peyre, président de la Fédération des brasseurs de Belgique, l'histoire et la variété des bières belges est unique au monde et se distingue très clairement des autres traditions brassicoles à travers le monde.
I think what is special to the Belgian beer culture is the combination of variety, innovation and tradition. We have more than 3,000 beers in Belgium, more than 200 breweries. And also these breweries have created around them a beer culture. We have our pubs, we have our museums, we have feasts, we have the ritual of how to serve a beer.
Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 37 degrés, Adélaïde 24 degrés, Melbourne 19 degrés, Hobart 17 degrés, Canberra un maximum de 25 degrés, Wollongong 24 degrés, Sydney 26 degrés, Newcastle 24, Brisbane 28 degrés, Cairns 32 degrés et Darwin affiche une des meilleures températures du pays avec un maximum de 33 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 74 centimes de dollars US et 69 euros. Et à présent, un rappel des principaux titres de notre actualité. Des attentats djihadistes déjoués à Paris, 5 djihadistes écroués et un djihadiste arrêté en Turquie pourrait être jugé en Australie. Et le 16e sommet de la francophonie se tient ce week-end à Antananarivo, la capitale malgache.